Les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Bonjour à toutes et à tous. 10 films qui ont changé le monde. Premier épisode, Citizen Kane d'Orson Welles. Avec le réalisateur, comédien, scénariste, historien du cinéma et romancier Noël Simsolo, auteur avec Alberto Locatelli au dessin de la bande dessinée Orson Welles, l'inventeur de rêves. L'historien du cinéma François Thomas, auteur avec Jean-Pierre Berthomé d'une très exhaustive étude sur Citizen Kane et avec le même de l'indispensable Orson Welles au travail. Et Jean-Philippe Trias, maître de conférences en histoire et esthétique du cinéma à l'université Paul-Valéry Montpellier III, qui a dirigé l'ouvrage collectif « Après Welles, imitation et influence ». Ça y est, le mot est lâché, Rosebud, et on n'aura pas trop de presque 2 heures de film pour en élucider la signification. C'est le prologue de Citizen Kane, une des scènes d'ouverture sans doute les plus célèbres du monde, où dans un travelling avant, la caméra va partir d'un panneau No Trespassing, défense d'entrée, qu'elle va ignorer superbement pour traverser les jardins désolés d'un palais inachevé jusqu'à une chambre où une lumière luit et où un homme meurt, un gros plan sur sa bouche moustachue. Il prononce ce mystérieux Rosebud, lâche une boule à neige qui se brise, il est mort. Alors cet homme, c'est bien sûr Charles Foster Kane, le citoyen Kane du titre. Mais avant qu'on ne parle de lui et du film, faudrait, comme cette ouverture filmique le fait, planter le décor. Qui est Orson Welles quand il tourne en 1940 ce film qui devait d'abord s'appeler American? Il a 25 ans et c'est déjà une célébrité, Noël Simsolo.
Il y a une anecdote célèbre, c'est qu'un jour, je crois que c'est dans le début des années 50, Welles est invité à faire une conférence quelque part. Il arrive et voit qu'il y a 10 de personnes dans la salle, pas plus. Et il dit, je m'appelle Orson Welles, my name is Orson Welles. Je suis illusionniste, homme de radio, comédien, scénariste, toréador, il va dire, et je suis étonné de me voir aussi nombreux alors que vous êtes si peu. Bon, et en fait, il y a ça, c'est que derrière le cinéaste, l'écrivain et tout, il y a une espèce de multitude de choses qu'il a faites. Et quand il commence à entrer à Hollywood, il a déjà toute une vie derrière lui alors qu'il a 25 ans. Cette vie, c'est quoi? Disons, parlons uniquement disons du métier. Il a écrit des nouvelles, il a créé des émissions de radio, il a monté des pièces de théâtre. La première chose qui l'a rendu à peu près connu, c'est la façon dont il a monté Macbeth avec des Noirs dans Harlem. Les Noirs protestaient devant le théâtre. À la fin de la représentation, les Noirs l'ont applaudi. On peut pas dire mieux. Ensuite de quoi, il y a eu, on oublie toujours, il y a eu Jules César qui l'a monté en dénonçant le fascisme, où les personnes avaient des uniformes genre nazi, genre fasciste mussolinien, et forcément le Ave César devenait très ambigu. Et après, il y a eu bon l'histoire qu'il détestait qu'on lui rappelle pendant un moment de la guerre des mondes, où il a inventé, disons, une véritable invasion des Martiens, et en fait, elle était fausse. Et il y a eu quelques éléments qui ont été grossis par la presse et confondu à une mythologie. Mais ça l'a amené à Hollywood. Alors la mythologie voulait aussi qu'Hollywood ait fait son premier film. C'est pas vrai, il avait déjà tourné avant. Il avait tourné, que François Thomas me dise si je me trompe, il avait tourné un petit élément sur La Nuit des Rois très très jeune qu'elle avait, oui, fait au théâtre. Ensuite, il avait fait un autre film d'amateur très avant-garde dont le titre m'échappe. Mais
The Arts of Age.
Voilà. Et puis il avait fait aussi, il avait pour un film, il avait filmé, pour un théâtre, il avait filmé des séquences également pour une pièce de théâtre.
Qu'on a retrouvée récemment
voilà,
dans
et
un
également,
grenier.
On parle encore, bon, bref, il a fait quelques essais, il savait ce que c'était. Sauf ce qu'il ne savait pas, c'est ce qu'était un vrai studio de cinéma, et c'est sa grande découverte qu'il a eue à ce moment-là, et peut-être que tout le film, au niveau réalisation, s'est fait là-dedans. L'autre chose, c'est que John Ken n'était pas le premier projet qu'il avait, mais je crois que François en parlera mieux que moi.
Le studio en question, c'est un grand studio, mais c'est un petit studio par rapport aux principaux à Hollywood. C'est la RKO, François Thomas, qui lui fait un contrat absolument invraisemblable pour l'époque, où il va être à la fois scénariste, réalisateur, interprète principal, et surtout producteur. Et ça, c'est du jamais vu, François Thomas ?
À ce point-là, oui. Enfin, bien entendu, Chaplin avait pu cumuler toutes ses fonctions, mais c'est un cas tout à fait à part. Lou Beach avait pu être producteur pendant, je ne sais plus, un an et demi chez Paramount. Mais c'est juste d'insister sur le fait qu'il est surtout producteur. C'est son contrat. Il a plusieurs contrats, bien entendu. Un contrat comme scénariste, un contrat comme producteur, un contrat comme réalisateur, un contrat comme acteur potentiel de ses premier film, mais celui qui lui donne pas tout à fait une carte blanche, mais ce qui s'approche plus d'une carte blanche pour l'époque, 1939, c'est bien son contrat de producteur. Évidemment, RKO, il est à la tête d'une sorte d'état dans l'état. Hein. Mercury Productions, c'est sa société de production
qui vient
à lui.
Du Mercury Theater, où voilà. Il a fait aussi ses premières armes.
C'est une émanation. Ses secondes armes, puisqu'avant, il a travaillé pour...
Il a beaucoup d'armes.
Oui, voilà. Beaucoup de flèches à son arc. Donc, il avait d'abord travaillé pour le Federal Theater, c'est dans le cadre de ce théâtre subventionné, c'est la seule expérience de théâtre, enfin pas seulement de théâtre, d'art subventionné aux États-Unis. Donc le Macbeth dont parlait Noël, c'est dans ce cadre-là. Ensuite, oui, le Mercury Theater qu'il cofonde avec son associé John Houseman. Ça devient à la radio le Mercury Theater on the Air, le théâtre Mercury sur les ondes, et donc une autre émanation, c'est Mercury Productions. Donc RKO lui permet de tourner ce qu'il veut, comme il veut, à partir du moment où il est accord sur, premièrement, le sujet, tout de même, et deuxièmement, le budget. Alors, comme Noël l'a dit, il y a d'autres projets avant Citizen Kane. Le principal, c'est Au cœur des ténèbres, d'après Joseph Conrad, une expérience complètement folle, où elle se voulait tout préparer avant le tournage. Le tournage n'aurait été que l'exécution, même Bernard Herrmann, qui était le collaborateur musical de Wells à la radio, qui deviendra celui de Citizen Kane, aurait dû enregistrer sa musique avant, et sur le plateau, on aurait joué beaucoup en plan séquence sur la musique de Herrmann. Et les trucages, notamment permettant de passer d'un plan à l'autre pour simuler la continuité, un petit peu comme dans La corde de Hitchcock quelques années plus tard, était également prévu. Et en plus, Wells voulait préenregistrer la totalité du dialogue. Les comédiens auraient joué en playback. Wells refera ça dans Macbeth plus tard, mais Noël veut...
Oui,
Noël
après, il voulait aussi également que tout le film, ça c'est très important par rapport à Junkin, il voulait que ce soit une caméra subjective. Ouais. Lui était Marlowe, un des personnages, parce que pour ceux qui ne savent pas, Heart of Darkness, il le modernisait, mais c'est ce qui est devenu Apocalypse Now c'est la nouvelle de Joseph Conrad. Bon, il voulait donc que tout soit en caméra subjective, ce qui ne sera fait que beaucoup plus tard par Robert Montgomery dans La Dame du Lac. Et surtout, il voulait à la fois que ce soit sa voix qui soit celle de Marlowe, là, il jouait ce qu'il était homme de radio, il l'avait déjà fait en radio d'ailleurs, Heart of Darkness, mais il voulait également jouer, lui, physiquement, le personnage de Curse, l'autre personnage, pour montrer la dualité et la proximité des deux personnages. C'était une idée magnifique et magique, et il a travaillé dessus énormément, et finalement, ça ne s'est pas fait parce que ça a traîné et tout. Et c'est tout à fait par hasard, lorsqu'il fait ses allers-retours entre New York et Los Angeles en avion, parce qu'il avait de la radio à faire, qui relie un truc qui traînait, qui était, je crois, rappelé La Marche des Chansons, quelque chose comme ça, un titre de ce genre, qu'il a l'idée de Citizen Kane. Qui se fait bien après. Il se passe presque un an, je crois, de travail. Il y avait aussi l'autre projet qui était The Smiler, qui était tiré d'un roman de Nicolas Black.
Alors on va parler dans un instant de comment s'écrit Citizen Kane. Jean-Philippe Trias, vous êtes avec nous au téléphone depuis Montpellier. Vous avez donc coordonné ce livre qui s'appelle Après Wells. Mais alors, avant Wells avant Citizen Kane, vous le voyez comment, vous, ce jeune homme de 25 ans, hein, rappelons-le, qui va tourner ce premier long métrage?
C'est déjà une célébrité à New York, et cette célébrité résonne déjà à Hollywood. Il fait la couverture de Time Magazine en mai 38. Il est célèbre après sa fameuse émission sur la fausse invasion des Martiens en octobre 38. Et ce qui est assez piquant, c'est qu'il fait un film sur la célébrité Citizen Kane, sur un personnage qui est, qui est célèbre et qui est confrontée à son image publique. Et c'est un peu ce que Welles a aussi vécu. Ce qui est intéressant aussi dans son rapport au cinéma, c'est que il arrive au cinéma, alors en ayant vu des films de Ford, de Renoir, mais avec une grande innocence. Alors la RKO le forme rapidement avec un manuel rédigé par une assistante. Greg Toland lui donne quelques cours accélérés pour comprendre la mise en scène, l'éclairage, le placement de caméra. Mais Welles, même à la fin de sa vie, a défendu cette idée d'être innocent, de garder un œil innocent. Et il dit qu'il a fait Citizen Kane avec l'assurance de l'ignorant qui lui permettait de tout inventer, de tester des choses qui étaient complètement en dehors du cadre du cinéma classique hollywoodien.
Ignorant, on verra ça, c'est aussi la légende d'Orson Welles. Mais puisque vous parliez d'image publique, en voici une.
News on the march!
Legendary was the Xanadu where Kublai Khan decreed his stately pleasure dome. Today, almost as legendary is Florida Xanadu, world's largest private pleasure ground. Here, on the deserts of the Gulf Coast, a private mountain was commissioned and successfully built. 100,000 trees, 20,000 tons of marble are the ingredients of Xanadu's mountain.
Le mania d'un empire médiatique est mort. Son empire incluait des journaux à sensation, des agences de presse, des chaînes de radio. Il s'est bâti un palais dont parle la voix en ce moment, Xanadu, du nom de celui du terrible Kubilai Khan. Tout le monde à l'époque reconnaît derrière ça le portrait caché de William Randolph Hearst, le mania des médias de l'époque aux États-Unis. Orson Welles s'en défend mollement dans un communiqué de presse très drôle au moment de la sortie du film en mai 1941, mais Hearst, lui, y croit suffisamment pour tenter de bloquer la sortie du film, et faute d'avoir pu racheter le négatif, il va carrément interdire à ses journaux de seulement mentionner le nom de ce film. Si on en croit le film de David Fincher, Mank, qui a tendance, comme la critique Pauline Kael voulait le faire à l'époque, dans les années 70, à faire de Herman Mankiewicz, le co-scénariste du film, le seul auteur de Citizen Kane, c'est en tout cas la proximité de ce dernier avec Hearst, qui expliquerait ce portrait clandestin que serait le film. Que sait-on, François Thomas, du choix de ce type de personnage par Orson Welles, alors qu'il aurait pu, par exemple, prendre comme modèle un Rockefeller ou un homme politique américain, un président?
Alors, l'origine du choix de Hearst, à n'en pas douter, c'est Mankiewicz. Maintenant, il y a toute une polémique autour du scénario, une polémique, dirais-je, assez pénible. On sait en réalité, depuis la fin des années 70, et des articles d'un Américain qui s'appelle Robert Carringer, et qui a étudié toutes les versions du scénario qui étaient disponibles à l'époque. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été retrouvées par la suite. Il a publié en 85 un livre sur la fabrication de Citizen Kane, et l'affaire est réglée. Au générique, vous avez une co-signature pour le scénario. Mankiewicz et Welles, et elle est justifiée à peu près à 50-50. Donc, je reviens ensuite sur Hearst, mais ce qui concerne l'écriture elle-même, bon bah oui, Mankiewicz écrit la première version, intitulée American, et à partir de là, il y a deux travaux parallèles ou parfois en commun, ceux de Mankiewicz, ceux de Welles. Et Pauline Kael, que vous avez mentionné, a fait une enquête à charge dont on a pu démontrer à quel point les résultats étaient truqués. Toujours est-il qu'on sait exactement ce que Welles a fait, quelle scène il a coupé, quelle scène il a ajouté, quel dialogue il a écrit lui-même, quel dialogue il a révisé. Maintenant, en ce qui concerne le choix des personnes, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, il se trouve que Hearst est prépondérant, certes, et vous avez aussi d'autres personnes influentes de la presse ou d'autres types, enfin des industriels notamment.
On a parlé de Howard Hughes notamment.
Oui, alors Howard Hughes, en réalité, c'était pour The Smiler with a Knife. Le projet mentionné tout à l'heure par Noël, il est clairement fait allusion même dans le scénario. Mais c'était un petit projet, ça aurait été une sorte de, je vais être méchant, mais de sous 39 marches. Citizen Kane est beaucoup plus ambitieux, comme Au cœur des ténèbres, d'après Conrad, était beaucoup plus ambitieux. Donc oui, Mankiewicz avait un peu fréquenté le monde de Hearst, mais tout le dialogue là-dessus était faussé. Ce que vous avez appelé une défense molle, j'avais trouvé plutôt rigide, mais il fallait en effet éviter de le reconnaître, pour d'évidentes raisons juridiques. D'où des dénégations qui tantôt étaient tout à fait justes. Mais non, ça, on l'a pris à tel autre. C'est un portrait composite, et c'est réellement un portrait composite. Et puis, évidemment, à d'autres moments, c'était des négations un peu fausses. Maintenant, la réaction, il y a un livre américain, alors maintenant, il date peut-être de 15 ans, je ne sais plus, mais qui fait davantage le tour que par le passé sur ce que l'on peut savoir. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pensé que Hearst avait voulu ne pas s'en mêler et que c'est son entourage qui avait voulu devancer les désirs de Hearst en matière de punition. Et en réalité, il semble que oui, Hearst ait donné un feu vert, discret mais un feu vert, et par ailleurs, c'est ce qui explique. Beaucoup de cinémas ont refusé de montrer le film par peur des punitions. Et c'est ce qui explique l'insuccès commercial relatif, mais enfin quand même un succès commercial, d'un film qui, sinon, aurait probablement été rentabilisé avec une presse, mais dithyrambique. Je vais me permettre de vous raconter une petite histoire. C'est le romancier John O'Hara qui écrit dans je ne sais plus quel journal un article, un dithyrambe. Je suis au regret de vous annoncer, mon cher lecteur, que je viens de voir le meilleur film qui ait jamais été tourné et la meilleure interprétation d'un acteur que j'ai jamais vu. Titre du film, Citizen Kane. Nom de l'acteur, Orson Welles. Raison du regret, vous, mon cher lecteur, vous risquez de ne jamais voir ce film. Il faut dire aussi que, bien sûr, la polémique a pu, je l'espère, tout de même attirer des spectateurs et spectatrices dans la salle.
Manuel Simsolo, je voudrais surtout qu'on revienne sur cette séquence qu'on vient d'entendre de News on the March, donc qui est une séquence de fausse actualité, comme on en voyait en salle à l'époque, qui a beaucoup de fonctions parce que ça représente l'image extérieure, l'image publique, comme on le disait tout à l'heure, mais en même temps, ça permet de condenser un récit qui ensuite sera raconté en flashback et que le spectateur ne se perde pas.
Oui, alors là-dessus, il y a plusieurs choses qui sont dites, comme quoi il aurait délégué complètement ça aux gens qui faisaient cette émission d'habitude cinématographique. Mais je voudrais juste revenir une toute seconde, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été écrites par rapport à Mankiewicz, le frère de Joseph Mankiewicz, qui a écrit Citizen Kane avec Welles, et aussi en partie, très peu, avec John Houseman. C'est qu'il y a un point qu'il faut dire, l'Oscar a été donné uniquement au scénario de Citizen Kane. Bon, mais Mankiewicz, c'était pas du tout une nouveauté. Il avait déjà fait adapter des choses pour le Mercury Theater à la radio avec Welles. Il se connaissait. C'est pas quelqu'un qu'on lui a donné à Hollywood. Et il avait des certains problèmes personnels. On n'a pas à revenir là-dessus. Alcoolisme, bon, bref. Bon. Et simplement, le travail s'est passé, disons, de manière très précise. C'est que toujours, mais toute sa vie, Welles, qu'il joue comme acteur dans le film d'un autre ou que ce soit les choses, il réécrivait. C'est-à-dire que quand, il y a l'anecdote qui est absolument célèbre de la soif du mal, qu'on lui dit, mais bon, vous feriez également la mise en scène parce que Charleston voulait qu'il fasse la mise en scène. Il a dit, oui, d'accord, mais je vais tout réécrire, il a dit. Bon, et dans ce cas-là, on lui a dit, vous serez payé comme comédien. Mais il a tout réécrit, il réécrivait ses rôles, mais parfois il réécrivait les scènes. Bon, et je crois que de toute façon, c'est qu'en effet, Mankiewicz envoyait les choses, avec les allusions, en effet, je pense que ça vient de là, oui. Bon, et que après, Welles revoyait tout. Il revoyait tout. Et on a trouvé, d'ailleurs, je crois, des mémos de John Houseman qui semblent confirmer la version qu'il recevait des trucs réécrits par Welles. Ça, c'est pour terminer là-dessus. En plus, quand Welles se retrouve faire ce film, il a déjà une expérience, il a touché un peu la caméra et c'est ce que c'est. L'intelligence qu'il a, c'est que certains éléments qu'il maîtrise moins que d'autres, il écoute et il délègue. Greg Toland et lui, il y a eu des discussions permanentes pendant le tournage. Il allait s'enfermer entre deux prises pour discuter des plans d'après. C'est-à-dire qu'il a une ouverture. Il est un peu comme quelqu'un qui va essayer d'aspirer tout ça, comme vampiriser tout ça pour lui-même, pour devenir. Et ça, c'est intéressant parce que le personnage de la puissance que représente Kane, c'est pas du tout Welles sur le tournage, contrairement à ce que l'on croit. Je dirais pas qu'il est modeste sur le tournage, mais il est attentif aux autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette espèce de rapport qu'il y a. Et quelqu'un comme Hearst représente pour lui le pouvoir extérieur. Et il y a une chose dans le film qui est très curieuse, c'est quand même la volonté de devenir gouverneur de Kane. Quand on sait que par la suite, Welles lui-même se mettra le politique, racontera même à l'assistant de Carol Reed, en arrivant, je regrette de ne pas avoir m'être présenté, disons aux élections pour être sénateur, parce que j'aurais été contre McCarthy, je l'aurais battu, il n'y aurait pas le McCarthyisme. Il disait ça, mais il était sincère. Et moi, je l'ai rencontré une seule fois à Welsh longuement, c'est que j'ai fait une allusion à... Il a répété le côté politique, c'était quelqu'un qui détestait les personnages comme Earth et tout, détestait ses puissances, alors que lui-même était quelqu'un qui était plutôt de ce côté-là, dans son espèce de mégalomanie. Donc c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, c'était la presse. Et la presse, c'est un élément, justement, qui aux États-Unis, il faut bien comprendre ce que Earth représentait. Ça, je crois que François le sait mieux que moi. C'était un empire dans l'empire.
Bah, on va pas parler de trop de Earth dans cette émission, parce que sinon on ne va jamais parler vraiment de cinéma. Alors Greg Toland, qui a été mentionné plusieurs fois, c'est le directeur de la photographie, le chef opérateur d'Orson Welles. On va avoir un exemple, alors là, sonore, de son travail. Vous écoutez France Culture, 10 films qui ont changé le cinéma. Premier épisode, Citizen Kane, avec Noël Simsolo, François Thomas et Jean-Philippe Trias. C'est ce qu'on entend, c'est le premier flashback, si je ne me trompe, dans Citizen Kane, un flashback tiré des mémoires d'un banquier, le tuteur de Kane enfant. C'est en quelque sorte la scène primitive pour le petit Charlie, avec déjà de nombreux indices, de la neige, une luge, on n'en dira pas trop pour ne pas dévoiler, pour ceux qui n'ont pas encore vu Citizen Kane. En tout cas, l'enfant de 8 ans ne va pas tarder à être arraché à sa mère, qui souhaite manifestement l'éloigner d'un père violent. Il est donc confié à un banquier. Mais évidemment, ce qui est surtout passionnant, c'est la façon dont cette séquence est mise en scène. Alors, petit exercice de description. François Thomas, qu'est-ce qu'on voit pendant cette séquence?
Eh bien, c'est assez difficile à décrire comme ça, à brûle pour point, mais il s'agit d'une scène qui est tournée en plusieurs plans longs extrêmement ambitieux, avec des mouvements d'appareil complexes, en studio bien entendu, comme la quasi-totalité du film, et vous l'avez mentionné, qui fait un usage important de la profondeur de champ. De la profondeur de champ, et par ailleurs, on y reviendra peut-être plus tard, un traitement du dialogue très, très particulier, et pour ce que nous avons entendu, un traitement de la musique très particulier. Bon, bref, à partir d'un moment, nous sommes dans la pension de famille de Madame Kane. À l'intérieur, nous avons le père, la mère et le fameux banquier. Une cloison amovible qui permet à la caméra de se déplacer, de faire des travelling. Et à travers la fenêtre, nous voyons l'objet
N'oublions
jamais, et en plus nous entendons sa voix, nous l'entendons, reprenons le terme d'innocence mentionné tout à l'heure par Noël. Vous avez une attention constante à chacun des endroits du cadre. Alors cela étant, donc Greg Toland a une influence considérable sur le film, et ça me paraît important, en parlant de profondeur de champ, de signaler que beaucoup de plans en profondeur de champ du film sont résultant en réalité de trucage. Je crois qu'il y a une proportion énorme, peut-être
ça
un tiers. Ça
plaisait pas beaucoup à Greg Toland, lui préférait le tourner directement.
Voilà, c'est absolument passionnant. Il y a deux légendes qui se sont créées. Il y a d'abord la légende de Greg Toland, qui invente des termes avec Welles du genre pan focus, et qui ensuite, c'est plutôt Welles qui dit, on s'est bien moqué des journalistes en inventant un terme qui ne correspondait à rien. Il s'est agi de dissimuler comment des plans extrêmement complexes ont pu être tournés. Alors, Robert Carringer, dont je parlais tout à l'heure, et d'autres, bien entendu, ont fait des enquêtes. Il y a toutes sortes de documentations possibles dans différents centres d'archives, mais pendant des décennies, c'est la version Toland qui a primé, comme si tous les plans étaient le résultat de ce qui était filmé sur le plateau. Et Lynn Wooden, qui est le chef du service trucage, qui a survécu de plusieurs décennies à Greg Toland, on a commencé à lui donner la parole à la fin des années 60, peut-être. Donc de plus en plus, on a pu équilibrer les mérites des deux. Et vraiment, que ce soit Mankiewicz-Welles ou
Toland donne, ça peut être un peu déplaisant d'avoir à départager les deux, sachant que on peut avoir l'admiration 50-50 pour chacun d'entre eux.
Jean-Philippe Trias, vous êtes toujours au téléphone avec nous de Montpellier. Il faut quand même préciser en quoi cette façon de filmer une séquence en, avec cette profondeur de champ, avec ce plan séquence, l'utilisation du grand angle aussi dont on va venir, contrevient à peu près à toutes les règles de ce qu'on appelle maintenant le classicisme hollywoodien, ou en tout cas d'une certaine routine des studios de l'époque, Jean-Philippe Trias.
Cette scène-là, tournée par un cinéaste de studio lambda, aurait été découpée en une dizaine ou une vingtaine de plans. Le petit Charlie à l'extérieur dans la neige, des champs contre champs entre les trois personnages. Et donc là, le choix, alors peut-être que François Thomas me précisera ou nuancera, mais je pense que le choix de tourner en profondeur de champ des plans longs, c'est peut-être aussi un choix d'économie, c'est-à-dire que Wells a des très très bons techniciens, ce qui lui permet de gagner du temps en fait sur son plan de travail. Et puis après, le choix de la profondeur et du plan long et du grand angle permet d'avoir des images très dramatiques. Alors c'est peut-être pas l'extrait le plus flagrant parce qu'il est il y a pas les contrastes noir blanc habituels, mais des images qui sont quand même très dramatiques avec une construction entre l'arrière-plan, le petit Charlie en train de jouer au premier plan, ses parents qui décident de son avenir, et puis aussi des relations dynamiques, c'est-à-dire que les personnages se déplacent, vont de l'avant à l'arrière, conduisent le regard. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce choix va avec la logique narrative du film, c'est-à-dire le flashback dont on parlait tout à l'heure, la question du souvenir. Là, on rentre dans la séquence par un fondu enchaîné entre le texte de Thatcher écrit à la main et la neige qui tombe. Et en fait, la profondeur de champ illustre aussi l'idée de la mémoire et du temps, puisqu'en fait, au fond du plan, c'est l'enfant, c'est Charlie, et quand la caméra se recule, c'est une manière de s'éloigner du passé, de laisser le passé au fond du plan, et de venir vers l'avant, où en fait, c'est le futur de Charles Foster Kane qui se décide. Donc, la profondeur de champ est aussi une profondeur de temps, et le choix est très, très cohérent avec la logique du film d'inventer des images du temps et de rendre compte des processus de la mémoire.
Noël Simsolo.
Oui, il faut dire que, bon, avant de réaliser le film, Wells se visionne non pas seulement, comme on l'a beaucoup raconté, la fourchette fantastique une quinzaine de fois pour apprendre comment Ford fait du cinéma, mais on oublie de dire que c'est un cinéphile. Il a vu plein de films, y compris des films de petite catégorie. Et il sait que l'économie moyenne...
Autant pour l'innocence, justement, de Wells, il connaît très bien le cinéma.
Oui, et l'économie moyenne est très importante. C'est-à-dire qu'il a l'idée, avec Craig Toland extraordinaire, de faire avec de l'argent... Ce que font les pauvres sans argent. Je veux dire par là des plans séquences, des profondeurs de champ et tout. Et en plus, on oublie une chose. D'où ça vient, Citizen Kane? Ça vient de deux choses. D'abord, c'est du cinéma, mais au départ, ça vient de la radio et du théâtre. C'est un homme de radio et de théâtre. Bon, j'avais passé avec Truffaut, le son, c'est capital dans le film. Et quant à l'image, Toland comprend, en travaillant avec lui, qu'on peut tout faire. Foyer à aiguille, grand champ, trucage plus ou moins élémentaire. Et il y a toujours la théâtralisation des choses qui va se faire. C'est-à-dire qu'on est toujours dans du cinéma qui vient du théâtre. Et ces profondeurs de champ, ces personnages lointains et tout, c'est ce que lui ne peut pas faire au théâtre, il voudrait faire. Il voudrait avoir l'espace comme à Béreux, comme ça, de faire ça. Il l'a pas. Là, il l'a. Et Toland, au bout d'un moment, est intéressé, intrigué par ce qu'il voit arriver chez Wells et ose des choses qu'il ne faisait plus, parce que Toland, à un moment, il vient d'avoir un Oscar, je crois, avec un film, il est considéré comme un des plus grands opérateurs, disons, d'Hollywood. Et justement, bien sûr, il y a tout ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'il y a toute une thématique, mais je crois qu'au départ, Wells, c'est ce qui l'intéresse, c'est mes acteurs dans l'espace.
Dans ça, on va en parler.
Les lieux dans l'espace. Qu'est-ce que l'espace du cinéma par rapport à l'espace du théâtre et à l'espace sonore? Et là-dessus, le film est une merveille absolue.
Alors, l'espace, justement, ce qui a beaucoup frappé à l'époque et ce qui frappe encore, c'est cette question des plafonds. Alors, il faut nous expliquer, François Thomas, pourquoi c'est aussi nouveau, tout d'un coup, de voir des plafonds au cinéma. Et une question aussi, parce que j'ai lu des textes de François Truffaut qui pensait, lui, que c'était parce qu'il voulait filmer les plafonds qu'il a utilisé le grand angle. Vous, votre thèse, c'est plutôt le contraire. C'est parce qu'il utilisait le grand angle qu'il fallait rajouter des plafonds au décor.
Oui, alors je ne suis pas sûr que ce soit le plus important dans le style de Wells, mais en tout cas, c'était très remarqué immédiatement. Et autant le dire, hein, si on lit la critique américaine de l'époque, elle a quasiment tout vu dans Citizen Kane. C'est stupéfiant dans tous les domaines. Mais la thématique du plafond, vu d'aujourd'hui, disais-je, ça paraît peut-être mineur, mais à l'époque, oui. On n'avait peut-être pas vu ça depuis une dizaine d'années, c'est un tout petit peu excessif. Alors que vous regardez les rapaces de Stroheim, vous avez quantité de plans de cette façon-là. Donc, le cinéma a été enfermé, le cinéma hollywoodien a été enfermé dans les studios, principalement, malgré les exceptions, depuis plus ou moins les débuts du cinéma parlant. On tourne avec des focales moyennes, on tourne les gros plans avec des focales longues, et les courtes focales, évidemment, elles existent, mais et Greg Toland s'en était servi, mais on s'en était jamais servi autant en dehors des films de Toland et de Wyler. Donc oui, fatalement, à partir du moment où on fait des contre-plongées, nous voyons le plafond qui pèse sur les personnages, mais il s'agit aussi de trouver une stratégie d'éclairage, parce que les plafonds, ou plutôt les hauteurs du studio sans plafond, servaient précisément à accrocher les éclairages. Donc la question de l'esthétique est vraiment inséparable de questions purement techniques, purement logistiques. J'aimerais revenir sur autre chose, après ce qu'a dit Jean-Philippe, hein, vraiment. Oui, donc Wells s'éloigne du découpage classique. Au moins pour ce film, il n'aime pas les champs contre champs. Il y a une seule scène qui en fait usage. Et il déjoue toutes les attentes en matière de raccord, raccord de regard, raccord de mouvement. Et son montage, il le prévoit en réalité dès le stade du découpage. La force de Wells, c'est bien d'avoir transformé American, le scénario de 320 pages de Mankiewicz, en un découpage technique extrêmement rigoureux et qui correspond à peu près, bien sûr, il y a des inventions aussi au montage, signé Robert Wise, et non signé Wells, mais Wells y a beaucoup participé, plus que la moyenne des réalisateurs. Il faut pas oublier qu'à l'époque, beaucoup de réalisateurs ne participaient pas au montage et ne participaient pas au choix de la musique, y compris John Ford.
Non, juste faut dire une chose, c'est que à l'époque, le Final Cut, c'est la maison de production, c'est pas le producteur. On confond souvent le producteur aux États-Unis avec la maison de production. Le producteur, c'est celui qui est responsable du film, économiquement et tout ça et tout. Mais c'est le studio qui décide. Bon. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour Citizen Kane, il a le final cut. C'est-à-dire qu'il a le droit à son montage à lui. Il y a une séquence qui est très célèbre, on va la dire, parce que quand même c'est une des clés. C'est que, comment montrer qu'un couple ne marche plus? Il a l'idée du petit déjeuner. Bon. Alors, c'est une idée qui est formidable dans le sens du film et qui n'est pas nouvelle. Dans le film muet, il y a déjà des choses comme ça. C'est que, Wells, c'est quelqu'un qui est un vampire. Il prend tout ailleurs et il en fait sa chose. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas quelqu'un qui invente. C'est quelqu'un qui recycle et qui réinvente par son recyclage. Sans arrêt. Bon. Mais le montage, c'est capital. De toute façon, on connaît l'anecdote. Wells, c'est quelqu'un qui disait je veux faire un plan séquence pendant, disons, qui va me prendre toute la journée, mais on va faire 10 minutes de film avec. Voilà. Alors que si je fais des trucs très très découpés, je vais mettre 8 jours pour faire la séquence. Donc, il a un sens de l'économie. Mais ça vient aussi que c'était lui qui gérait le théâtre avec Woosman, c'est lui qui gérait ses émissions de radio, il sait ce qu'est l'économie de moyens. Et le grand malentendu avec Citizen Kane, c'est les gens parlent toujours de grands moyens donnés et tout. En fait, c'est un film avec des grands moyens qui utilise une économie de moyens. Bon. Et ça permet au personnage d'exister, parce que sinon, dans tout ce qu'on est en train de raconter, la photo, tout ça et tout, il n'y aurait plus de personnage. Il y aurait des marionnettes. Et ils ont de la chair, ils ont de la vie. Il y a des gros plans magnifiques qui expliquent par moments les choses. Il y a, quand Wells se montre tout petit dans le fond de l'écran, Xanadu, elle, avec son puzzle au début, c'est aussi fort que quand on a le gros plan de Joseph Cotten qui regarde comme ça, Wells en se disant cette fois ça va changer. C'est aussi fort. Et pour trouver cette force équivalente, il y a qu'une seule manière, c'est qu'est-ce que le montage et qu'est-ce que la mise en place dans la mise en scène. Et ça, il l'a compris.
France Culture. Les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Good evening, Mr. Kane. There is a man. A certain man. And for the poor, you may be sure that he'll do all he can. Who is this one?
Who is this one?
His favorite son. Attraction magnets on the run. Who loves to smoke? And Georgia Jones. I wouldn't get a bit upset if he were really broke. With wealth and fame, he's still the same. I'll bet you find it on.
Voilà, une petite fête dans les locaux du premier journal de Kane, The Inquirer, où on se félicite du débauchage des meilleurs rédacteurs du journal concurrent. Et qu'est-ce qu'on fait pour fêter ça? Ben, on fait venir des girls et on chante une chanson à la gloire de Kane. Et puis, à son vieil ami de fac, vous venez d'en parler, Noël Simsolo, Joseph Cotten, Leland, qui se demande si le verre n'est pas déjà dans le fruit. Ce ne sont pas les rédacteurs du Chronicle qui vont changer Kane. En tout cas, je parle de Joseph Cotten parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ses comédiens. Joseph Cotten est un ancien du Mercury Theatre, comme la plupart des visages, des nouveaux visages qu'on voit tout au long de ce film et tout au long des films à venir de Welles. Ce qui est très passionnant évidemment chez Welles et dans Citizen Kane en particulier, c'est que comme chez Ford, il y a une Orson Welles Stock Company, il y a des visages nouveaux qu'on n'avait jamais vus.
Oui, et le cas de Cotten est assez particulier parce que Cotten, il le rencontre, disons, il fait beaucoup de théâtre avec lui. Thomas Johnson, dont il y a un petit film qui a été tiré, fascine tellement les gens. Catherine Hepburn le fait engager pour être son partenaire, disons, dans un grand théâtre, disons, à New York. Bon, et Cotten aura une vie parallèle avec Welles très importante. Mais il y aura deux problèmes qui vont se poser. Un qui sera quand même un peu embêtant, c'est que quand il va devoir partir en Amérique du Sud pour tourner le film de propagande qu'on lui demande de faire et qu'il laisse l'histoire en personne qui n'est pas terminée, il dit à Cotten, j'espère que tu vas faire attention. Et Cotten n'aurait pas été très correct, aurait laissé retourner les scènes. Enfin bon, ils sont presque fâchés, ils sont un peu, disons, distants. Et il va se passer le fait qu'ils vont se retrouver sur le troisième homme. Et là, c'est le moment où le couple est reformé, si on veut dire. Bon, mais en fait, Cotten sera marqué par deux personnes toute son existence, c'est Welles et Hitchcock. Il aura fait qu'un film avec Hitchcock, mais qui l'aura beaucoup marqué, et Welles. Et Cotten, c'est quelqu'un qui va c'est peut-être de tous les acteurs qui ont travaillé avec Welles, l'acteur qui va dire une star, pas les autres. Hervé Sorens sera toujours un magnifique second rôle, Paul Stewart sera un magnifique second rôle, mais la star qui va sortir de Mercury Theater en dehors de Welles, c'est Joseph Cotten.
Oui, mais Welles lui avait précisément dit, en substance, tu ne seras jamais un vrai comédien de composition, Cotten se décompose, en revanche, tu seras une star.
Oui, tu seras le premier rôle.
Voilà. Mais donc il a eu le premier rôle dans Too Much Johnson, comme tu l'as dit, parmi tous les comédiens du Mercury Theatre, et en particulier du Mercury Theatre on the Air, de la radio, paradoxalement, à mes yeux en tout cas, c'est pas du tout le meilleur acteur de composition en effet. À la radio, on reconnaît la plupart du temps sa voix, alors que, il faut d'abord rappeler, en effet, vous l'avez dit Antoine, la plupart des comédiens, enfin il y a une dizaine de comédiens et comédiennes qui viennent du Mercury Theatre. Donc soit ils ont fait avec Welles uniquement du théâtre, soit avec Welles uniquement de la radio, mais à raison d'une fois par semaine. Il y en a qui ont joué dans 50, dans 60 émissions radiophoniques avec mise en onde par Welles. Bon, et puis il y a deux nouvelles venues dans les rôles des deux épouses de Kane, donc Dorothy Cummingor et Ruth Rourke. Mais donc les autres, je pense en particulier à Ray Collins qui joue le rôle de l'adversaire politique de Kane. On le reverra dans quelques plans de La Sœur du Mal. On le revoit surtout comme Oncle Jack dans La Splendeur des Anderson. Donc lui a dû jouer dans 60 émissions avec Welles. Et donc j'ai écouté les 200 émissions que Welles a pu mettre en onde, enfin en tout cas celles qui ont survécu, en plus de celles qu'il a jouées, je n'ai jamais reconnu Ray Collins tellement il déguise bien sa voix. Et bon, évidemment, la façon dont il chauffait à blanc ses comédiens et comédiennes au théâtre, à la radio, se retrouve ici, mais par exemple pour Ray Collins, ses rôles chez Welles, c'est plutôt des rôles, je vais pas dire débonnaires, étant donné le politicien sans scrupules, mais on ne peut absolument pas imaginer le côté extraverti qu'il pouvait avoir à la radio et manifestement aussi, d'après les témoignages, au théâtre. Et les autres acteurs qu'a mentionné Noël permettaient... si Welles, l'intelligence, c'est vraiment ça. Si Welles avait pris des gens, en dehors de Turland, qui avaient pris des comédiens installés, les comédiens lui auraient dit c'est pas comme ça qu'on fait.
Absolument.
Alors que là, les comédiens qui savent comment Welles travaille vont dans son sens et vont peut-être même plus loin que ce que Welles leur demandait. En tout cas, leur témoignage souvent c'était mais ils tiraient de nous des choses dont nous ne savions pas qu'elles étaient en nous.
Je voudrais juste ajouter que ce sont des comédiens, pas des acteurs. Je veux dire par là que quand Welles fait Citizen Kane, il sait que le comédien qui va prendre, qui va se vieillir pour jouer un rôle, il le fera comme on le fait au théâtre, avec les éléments, avec la gestuelle, avec les jeux de voix. Et il sait aussi qu'Hollywood, il y a des gens formidables, mais qui sont des acteurs, qui n'ont jamais fait de théâtre et qui jouent leur rôle dans leur propre rôle. Et il ne veut pas de ça. Il veut continuer cette idée de troupe et disons de nuances comme ça. On pense à Alain René, François et moi, parce qu'Alain, sur la fin de sa vie, c'était un peu ça. Il aimait bien reprendre Sabine dans un autre rôle, mais ces nuances-là. Et ça, c'est typiquement, ça vient du théâtre, ça vient de la radio. Et justement, il y a une fidélité aussi à ses voix et à ses gestes. Et la force du film aussi, justement, c'est de ne pas avoir le stéréotype de l'acteur hollywoodien dans ce film.
Et quelqu'un qui vient de la radio, lui aussi, qui n'est pas comédien, mais qui est très important, on a mentionné son nom tout à l'heure, c'est Bernard Herrmann. Écoutez France Culture, 10 films qui ont changé le cinéma. Premier épisode, Citizen Kane, avec Noël Simsolo, François Thomas et Jean-Philippe Trias. C'est tour de force cinématographique. On a l'impression qu'on a vu un opéra en entier. Et en fait, moins de 3 minutes se sont écoulées du lever de rideau aux applaudissements à rien forcer à la fin. C'est l'opéra, c'est Salambo. C'est la deuxième épouse de Citizen Kane qui le chante tant bien que mal sur la scène de l'opéra de Chicago que Kane a fait construire pour elle. Est-ce qu'il y a encore aussi une utilisation novatrice de la musique qui rompt avec les codes de l'époque par Herrmann débutant, hein. C'est pas le Herrmann qui a fait toutes les musiques d'Alfred Hitchcock François Thomas, Noël Simsolo.
Juste dire que il y a une chose qui est connue, c'est qu'au départ il se posait la question de prendre un opéra, puis finalement je crois que c'est Bernard Herrmann qui avait dit j'ai qu'à en écrire un. Bon, ça fait gag, est-ce vrai, on sait pas, mais ça qui est intéressant. Et deuxièmement, la chose qui est formidable, c'est que peu de gens l'ont relevé, c'est que le premier mot qui est chanté par rapport à cette scène qui est terrible, ah, cruel. Et on est dans la cruauté totale. Bon. Et là, c'est ça qui est formidable. Bon. Et quant à Bernard Herrmann, il est évident que c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, sera un partenaire pendant un moment de Welles, avant ce film. Et il y a déjà tout ce côté qu'il sait mettre, c'est une musique qui est aussi importante que les dialogues. C'est pas une musique d'habitation, c'est pas une musique d'illustration, c'est une musique matérielle. C'est un matériau comme les autres, et Welles l'a compris.
Le dialogue est un matériau, précisément, François Thomas. Parce qu'on l'a entendu tout à l'heure dans la scène, effectivement, avec la mère de Kane et Kane enfant dans la neige. C'est cet art du chevauchement, presque musical. Là encore, des dialogues.
Oui, tout à fait. Donc là, ça vient du théâtre d'Orson Welles. On a beaucoup dit que ça venait de la radio, en fait. Welles a fait une émission, vraiment démonstration à la radio en janvier 39, à thème hollywoodien, enfin une satire du milieu hollywoodien. Et oui, là, il a fait parler tout le monde plus ou moins en même temps. Et le sponsor, le parrain publicitaire Campbell Soup, a mis le haut là pour les émissions d'après. Et puis aussi, il y a eu des enquêtes auprès des auditeurs et des auditrices. Et le résultat, c'était l'émission qui a été le moins appréciée. Bon, en revanche, au théâtre, la particularité, le chevauchement du dialogue au théâtre, ça existe depuis 25, 28, quelque chose comme ça, mais essentiellement pour des comédies. Et souvent des comédies à thème journalistique, d'ailleurs. Donc, Welles, ce qu'il a fait, c'est... Il est le premier, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus, il est le premier à l'avoir transposé dans le domaine shakespearien, notamment avec Jules César. Ça veut dire, pas réécrire Jules César, mais ça veut dire adapter les pièces préexistantes. Par exemple, Thomas Johnson, dont a parlé plusieurs fois Noël. J'ai lu 4 versions successives du scénario, enfin du texte de la représentation, où elle s'éloignait de plus en plus de l'original pour raccourcir et provoquer des occasions de chevauchement. Et les comédiens de Wells ont beaucoup témoigné là-dessus, la façon dont ils le faisaient travailler. Alors, au cinéma, ça existait aussi, mais c'était très réduit. C'était Grégory Lacava, c'était Frank Capra dans certaines scènes de ses films, et c'était Howard Hawks dans certaines scènes
de ses films. Dans La Dame du Vendredi, notamment.
Et puis, surtout, donc, La Dame du Vendredi en 1940, où ça va à toute vitesse. Mais ça va à toute vitesse, sauf à la fin, lorsque ça devient un peu plus sentimental, mais il n'y a pas tous les chevaux de bruitage, il n'y a pas tous les chevaux musicales que l'on trouve dans Citizen Kane. Je ne dis pas du tout ça pour mémoriser le magnifique film de Hawks. Ce que fait Wells avec Citizen Kane, donc, c'est de l'importer non plus dans les comédies, comme chez les metteurs en scène que je viens de citer, de cinéma, mais dans un drame. Certes, le chevauchement, c'est surtout dans les scènes se rapprochant davantage, oui, de la comédie américaine, celle dont préférait se rappeler Pauline Kael pour démontrer que c'en était l'origine. Donc, il ne s'agit pas de faire parler tout le monde en même temps, de façon qu'on ne comprenne rien. Mais Hawks non plus, hein, bien entendu.
C'est à la syllabe près.
C'est à la syllabe près, c'est très répété. Autrement dit, il s'agissait de trouver, Wells n'a pas dit ça, mais ça se déduit de l'écoute minutieuse. Il s'agissait de trouver des astuces. Vous prenez deux voix à la tessiture complètement différente, aiguë, grave, on va comprendre si c'est la même tessiture. Non, deux rythmes complètement différents. Et plein d'autres astuces de ce genre-là. Ça veut dire que dans Citizen Kane, si vous êtes attentif, vous comprenez tout, alors même que vous pouvez avoir deux personnes qui parlent en même temps, trois personnes qui parlent en même temps. Il y a une réplique sur trois, hein, qui est chevauchée par la précédente ou qui chevauche la suivante, et ça restera une des marques de fabrique de Wells dans la plupart de ses films, y compris de façon atténuée dans les films shakespeariens.
Et dans le cas de musique et texte, c'est un film qui a marqué énormément de gens qui étaient des cinéastes du théâtre, aussi, qui venaient du théâtre. On sait que Bergman en a parlé, on sait que Pasolini en a parlé, mais moi je peux vous dire une chose, c'est que j'avais discuté avec François Truffaut à la sortie de Notre Signore di Turchi de Carmelo Bene, et il m'a dit, c'est marrant, le son, ça m'a fait penser à Citizen Kane. Et quand j'ai vu Carmelo m'a dit qu'il détestait le cinéma, sauf Wells, et il m'a parlé pendant que de la bande-son de Citizen Kane. C'est-à-dire que les gens de théâtre ont complètement compris d'où ça venait et comment. Et je crois que ça, c'est très très important, parce que aujourd'hui, on est dans un cinéma où on fait chuchoter des gens, et des fois, quand vous le voyez les films, vous n'entendez pas vraiment ce que dit quelqu'un, parce que le preneur de son, lui, l'a bien entendu. À l'époque, c'était pas comme ça, c'était du mono. Fallait coller, fallait trouver comment on mettait en même temps. C'était tout un travail, disons, qui donnait un côté artisanal. Mais artisanal, ça crée de l'art. Et c'est la bande-son de Citizen Kane, en elle-même, je ne sais pas si François a fait comme moi, mais il m'est arrivé de mettre le film et de l'écouter.
Ah oui,
c'est autre chose en l'écoutant. Et c'était comme si j'écoutais une symphonie ou si j'écoutais, disons, du jazz. C'est ça. Et ça, c'est la grande force de la bande sonore de ce film. C'est qu'elle est immortelle.
C'est un des seuls films dont la bande sonore, quasiment intégrale, a été éditée en 33 tours.
Et ça tombe bien, on est à la radio et on adore écouter les films.
Give me things, but that don't mean anything to you.
You're in a tent, darling. You aren't at home. I can hear you very well if you speak in a normal tone of voice.
What's the difference between giving me a bracelet or giving somebody else $100,000 for a statue you're going to keep crated up and never even look at? It's just money. It doesn't mean anything. You never really give me anything that belongs to you, that you care about.
Susan, I want you to stop this.
I'm not going to stop it.
Right now.
You never gave me anything in your whole life. You just tried to buy me into giving you something.
Susan!
Voilà, petite scène de pique-nique et d'engueulade en même temps dans les Everglades entre Kane et sa deuxième épouse, Suzanne, qui lui reproche de ne pas aimer, mais de vouloir qu'on l'aime. Alors, il y a un texte assez rigolo de Borges, qui a été écrit en 1945, quand il découvre le film à Buenos Aires, et il dit « J'ose prévoir que Citizen Kane durera comme dur, entre guillemets, certains films de Griffith ou de Pudovkin, dont personne ne nie la valeur historique, mais que personne ne se résigne à revoir. » Est-ce qu'on revoit Citizen Kane aujourd'hui? Moi, je le... je le crois. En tout cas, le film a été longtemps classé dans les, enfin, le film le plus important de l'histoire du cinéma. C'était dans tous les classements jusqu'à récemment où c'est Vertigo qui l'a détrôné. En tout cas, c'est un film, Truffaut lui-même le disait, hein, que tout ce qui compte pour lui dans le cinéma a été influencé depuis 1940 par Citizen Kane ou La règle du jeu de Jean Renoir. Jean-Philippe Trias, vous avez dirigé ce livre collectif Après Wells sur les influences et imitations de son œuvre en général. Quelles sont celles, selon vous, de Citizen Kane en particulier?
Vous citiez Truffaut. Truffaut disait justement que Citizen Kane était certainement le film qui avait suscité le plus de vocation de cinéaste à travers le monde. Il rajoutait aussi que cette influence était indirecte et souterraine. Alors parmi justement les influences qu'il a pu susciter, dans la nuit américaine, Truffaut met bien ça en scène, ce côté souterrain et même inconscient, puisque le réalisateur que joue Truffaut, donc Ferrand, est hanté par un rêve récurrent qui est un rêve qui en gros montre que Citizen Kane est constitutif de son désir de cinéma, puisqu'on le voit enfin voler des photos d'exploitation de Citizen Kane. Et de manière assez discrète, Truffaut montre aussi que Citizen Kane peut être un modèle pour un réalisateur qui réécrit une scène avec le script, et on voit le Citizen Kane book, le scénario du film, sur une étagère. C'est un modèle pour les cinéastes. En fait, Citizen Kane a très vite été, enfin, en tout cas, les inventions du film ont très vite été reprises par le cinéma américain et même au-delà. Les flashbacks multiples connus par plusieurs personnages, on en retrouve chez Joseph Mankiewicz, le frère de Berman, les plans sonores pour passer d'une séquence à l'autre aussi, tout ce qui est travail des images, grand angle, déformation, contraste noir et blanc violent, on le retrouve plutôt dans la production B des années 40-50, parce que c'est un moyen de se singulariser par rapport à l'esthétique classique, et l'influence de Citizen Kane court même loin hors d'Occident, puisque chez Kurosawa, c'est un arrachement, on peut supposer que les flashbacks les contradictoires viennent peut-être de Citizen Kane. En fait, il y a assez peu de reprises assez explicites, mais on en retrouve chez Coppola, Scorsese ou Bogdanovich, qui sont des héritiers assez directs dans le nouvel Hollywood. Probablement qu'il influence aussi assez puissamment le cinéma de Reeves. Et puis, bon, si on parcourt l'histoire du cinéma, on voit beaucoup de références culturelles. Dans la fin d'Indiana Jones, qui reprend le plan final de Citizen Kane, pour montrer que l'Arche d'Alliance va être remisé dans un grand entrepôt voué à l'oubli. Beaucoup de reprises, et une des plus récentes qui relève certainement de la parodie, c'est le grand détournement de Vanadissus et Mesrette, la classe américaine, qui reprend en fait assez directement la structure de Citizen Kane.
Merci Jean-Philippe Trias. Malheureusement, la liaison téléphonique est très mauvaise, on vous entend très mal, mais je renvoie nos auditeurs à votre livre, le livre que vous avez dirigé. Après Wells, une petite précision, Noël Simsolo.
Oui, vous m'avez dit une chose, c'est quand Citizen Kane est sorti aux États-Unis, ça n'a pas été un gros succès, et puis le temps a fait qu'après c'est devenu une mythologie. Mais quand il est sorti en France, c'est après la guerre. Et à ce moment-là, il y a une chose intéressante, c'est que il y a quelqu'un qui a été contre le film, c'est Sartre. Sartre n'aimait pas le film. C'était la seule fois qu'il avait espaché avec mon ami Alexandre Astruc qui lui défendait le film. Et il y a eu un problème à ce moment-là. Et finalement, c'est un film qui s'est installé dans la pensée des gens qui avaient envie de faire du cinéma en France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la Nouvelle Vague sans parler de Hitchcock et Wells. Ce sont les deux, plus tard Mizoguchi. Mais c'est les deux cinéastes qui ont marqué. Alors pourquoi ils ont marqué autant? C'est parce que, contrairement à ce que certaines personnes ont écrit à une époque, ça n'était pas le premier film pensé par flashbacks, comme ça. En France, il y avait eu un film qui avait été un relatif échec, c'était Le Jour se lève, quand même, qui était juste derrière. Bon, mais il y avait que Wells avait réussi une chose assez étonnante, c'est à créer un objet dans un Hollywood où l'on savait qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'auteurs. Les auteurs, il y en avait très très peu. Il y avait Lubitsch. Il y avait ceux qui étaient à la fois producteurs, scénaristes et tout, mais Preston Sturges, il y avait très peu. Et Wells, brusquement, mettait un pavé dans la mare, on peut tout faire. Et là, en plus, c'était un maudit. Parce qu'il faut bien pas oublier que après, par la suite, le contrat de Wells à Preston Kane a été rechangé, il n'avait plus du tout les droits qu'il avait, il n'avait plus le Final Cut, il est devenu, disons, un exilé permanent du cinéma, bon, et qu'on lui a fait payer très cher. Et quand il disait qu'on parlait de Citizen Kane, il n'aimait pas trop l'entendre. Moi, je sais que le peu de moments où j'ai parlé avec lui, Citizen Kane, il dit, je l'ai mis dans mon truc, il dit à Van Moreau pour il m'a dit, oh, vous allez pas recommencer avec ça. Il a l'air de dire, la guerre des mondes, et puis Citizen Kane, bon, j'ai fait autre chose. Mais en même temps, l'importance du film, elle est pas seulement souterraine. Elle est que c'est le film qui a donné envie à faire du cinéma autrement aux gens qui entraient dans la carrière professionnellement, benoîtement, gentiment, académiquement. C'est ça qui est capital.
Et puis André Bazin aussi s'emparera beaucoup du film tenter de répondre à la question qu'est-ce que le cinéma. François Thomas, un dernier mot, c'est un film qui est devenu un mythe, mais c'est aussi un film dans lequel on peut voir la fondation d'un cinéma moderne, c'est-à-dire un cinéma de l'indécision, un cinéma qui nécessite un travail du spectateur, puisque le principe même de Citizen Kane, c'est qu'on a beau raconter toute la vie d'un homme, le mystère ne sera jamais complètement résolu, oui. même si on sait à la fin ce qu'est Rosebud.
Oui, tout à fait. En même temps, comme Noël l'a dit, eh bien, Wells, d'un point de vue hollywoodien, décline et s'installe un discours aux États-Unis qui est parfois très négatif. On parle du déclin d'Orson Welles, alors qu'il tourne des films absolument magnifiques par la suite, dont il garde le contrôle, c'est le cas de Macbeth, ou pas du tout, c'est le cas de La Dame de Shanghai, où il n'y a même pas de nom de réalisateur au générique, probablement parce que Welles n'aurait pas rempli ses obligations contractuelles, alors que en France, et de manière générale en Europe, il est porté au pinacle, jusqu'à la fin. Mais j'aime bien une phrase de l'avant-propos d'un ouvrage américain, un ouvrage collectif coordonné par Sidney Gottlieb et quelqu'un d'autre dont je viens d'oublier le nom à l'instant, désolé, qui explique que aux États-Unis, souvent on dit que Welles, son nom resterait dans l'histoire du cinéma, même s'il n'avait fait que Citizen Kane. Et l'auteur ajoute, en réalité, Welles resterait dans l'histoire du cinéma, même s'il n'avait pas fait Citizen Kane. Autrement dit, comme ses réactions lors de ses rencontres avec Noël le montrent, hein, Citizen Kane, c'est l'arbre, parfois, qui cache la forêt, d'autres films tout aussi superbes. Et d'ailleurs, très souvent, appelons ça les exégètes welsiens, en préfèrent d'autres, pas forcément par esprit de contradiction, mais tout simplement parce qu'ils peuvent trouver le cœur de Welles davantage dans d'autres films.
Et c'est une telle référence culturelle, Citizen Kane, qu'il y a beaucoup de chansons qui en parlent. Il y a les White Stripes. En France, il y a même Bernard Lavilliers qui a fait une chanson sur Citizen Kane. Et il y a aussi les Byrds.
Fat man swam in a red tire made of stone. The painted lady paddled next to him with two poodles on her lap. Garbo quietly picked a flower while the chauffeur won his check again. And as Barrymore took a noonday nap, diamonds fell like rain. Cisco kid and a bald-headed waitress trapped beneath the bed of brass. The French cook served them chocolate and cold cuts on the grass. Luella ripped her zebra pants in the Polo lounge. And Errol Flynn was not let in 'cause he was coming down. Up in Xanadu, diamonds fell like rain. Citizen Kane was king.
Merci Noël Simsolo, François Thomas et Jean-Philippe Trias d'avoir plongé avec nous dans Citizen Kane, la bande dessinée Orson Welles, l'inventeur de rêves, est parue chez Glénat. Votre étude sur le film François Thomas avec Jean-Pierre Berthomé, on peut encore la dénicher, elle est chez Flammarion et Orson Welles au travail, magnifique livre, ça c'est au cahier du cinéma. Quant à l'ouvrage collectif que vous avez dirigé, Jean-Philippe Trias, Après Welles, Imitation et Influence, c'est aux éditions Mimesis. La prise de son aujourd'hui était de Valentin Hazan et l'émission préparée par Marceau Vassy et réalisée par Vivian Lecuivre.